Chapitre 4 Au sein d'une nature sauvage. Le château du Glandier est un des plus vieux châteaux de ce pays d'Île-de-France où se dressent encore tant d'illustres pierres de l'époque féodale. Bâti au cœur des forêts sous Philippe le Bel, il apparaît à quelques centaines de mètres de la route qui conduit du village de Sainte-Geneviève-des-Bois à Montlhéry. Amas de constructions disparates, il est dominé par un donjon. Quand le visiteur a gravi les marches branlantes de cet antique donjon et qu'il débouche sur la petite plateforme où, au XVIIe siècle, Georges Philibert de Séquigny, seigneur du Glandier, Maisonneuve et autres lieux, a fait édifier la lanterne actuelle d'un abominable style rococo, on aperçoit à 3 lieues de là, au-dessus de la vallée de la plaine, l'orgueilleuse tour de Montlhéry. Donjon et tour se regardent encore après tant de siècles et semblent se raconter, au-dessus des forêts verdoyantes ou des bois morts, les plus vieilles légendes de l'histoire de France. On dit que le donjon de Glandier veille sur une ombre héroïque et sainte, celle de la bonne patronne de Paris devant qui recula Attila. Sainte Geneviève dort là son dernier sommeil dans les vieilles douves du château. L'été, les amoureux, balançant d'une main distraite le panier des déjeuners sur l'herbe, viennent rêver ou échanger des serments devant la tombe de la sainte, pieusement fleurie de myosotis. Non loin de cette tombe est un puits qui contient, dit-on, une eau miraculeuse. La reconnaissance des mères a élevé en cet endroit une statue à Sainte Geneviève, et suspendu sous ses pieds les petits chaussons ou les bonnets des enfants sauvés par cette onde sacrée. C'est dans ce lieu, qui semblait devoir appartenir tout entier au passé, que le professeur Stangerson et sa fille étaient venus s'installer pour préparer la science de l'avenir. Sa solitude au fond des bois leur avait plu tout de suite. Il n'aurait là, comme témoin de leurs travaux, de leurs espoirs, que de vieilles pierres et de grands chênes. Le Glandier, autrefois Glandierum, s'appelait ainsi du grand nombre de glands que de tout temps on avait recueillis en cet endroit. Cette terre, aujourd'hui tristement célèbre, avait reconquis, grâce à la négligence ou à l'abandon des propriétaires, l'aspect sauvage d'une nature primitive. Seuls les bâtiments qui s'y cachaient avaient conservé la trace d'étranges métamorphoses. Chaque siècle y avait laissé son empreinte, un morceau d'architecture auquel se reliait le souvenir de quelque événement terrible, de quelque rouge aventure. Et, tel quel, ce château, où allait se réfugier la science, semblait tout désigné à servir de théâtre à des mystères d'épouvante et de mort. Cela dit, je ne puis me défendre d'une réflexion. La voici. Si je me suis attardé quelque peu à cette triste peinture du Glandier, ce n'est point que j'aie trouvé ici l'occasion dramatique de créer l'atmosphère nécessaire aux drames qui vont se dérouler sous les yeux du lecteur, et en vérité mon premier soin dans toute cette affaire sera d'être aussi simple que possible. Je n'ai point la prétention d'être un auteur. Qui dit auteur dit toujours un peu romancier, et Dieu merci, le mystère de la chambre jaune est assez plein de tragiques horreurs réelles pour se passer de littérature. Je ne suis et ne veux être qu'un fidèle rapporteur. Je dois rapporter l'événement. Je situe cet événement dans son cadre, voilà tout. Il est tout naturel que vous sachiez où les choses se passent. Je reviens à M. Stangerson. Quand il acheta le domaine, une quinzaine d'années environ avant le drame qui nous occupe, le Glandier n'était plus habité depuis longtemps. Un autre vieux château dans les environs, construit au XIVe siècle par Jean de Belmont, était également abandonné, de telle sorte que le pays était à peu près inhabité. Quelques maisonnettes au bord de la route qui conduit à Corbeil, une auberge, l'auberge du donjon, qui offrait une passagère hospitalité aux rouliers. C'était là à peu près tout ce qui rappelait la civilisation dans cet endroit délaissé qu'on ne s'attendait guère à rencontrer à quelques lieues de la capitale. Mais ce parfait délaissement avait été la raison déterminante du choix de M. Stangerson et de sa fille. M. Stangerson était déjà célèbre. Il revenait d'Amérique où les travaux avaient eu un retentissement considérable. Le livre qu'il avait publié à Philadelphie sur la dissociation de la matière par les actions électriques avait soulevé la protestation de tout le monde savant. M. Stangerson était français, mais d'origine américaine. De très importantes affaires d'héritage avaient fixé pendant plusieurs années aux États-Unis. Il avait continué là-bas une œuvre commencée en France, et il était revenu en France l'y achever, après avoir réalisé une grosse fortune, tous ses procès s'étant heureusement terminés, soit par des jugements qui lui donnaient gain de cause, soit par des transactions. Cette fortune fut la bienvenue. M. Stangerson, qui eût pu, s'il avait voulu, gagner des millions de dollars en exploitant ou en faisant exploiter deux ou trois de ses découvertes chimiques relatives à de nouveaux procédés de teinture, avait toujours répugné à faire servir à son intérêt propre le don merveilleux d'inventer qu'il avait reçu de la nature, mais il ne pensait point que son génie lui appartint. Il le devait aux hommes, et tout ce que son génie mettait au monde tombait de par cette volonté philanthropique dans le domaine public. S'il n'essaya point de dissimuler la satisfaction que lui causait la mise en possession de cette fortune inespérée qui allait lui permettre de se livrer jusqu'à sa dernière heure à sa passion pour la science pure, le professeur dut s'en réjouir également, semblait-il, pour une autre cause. Mademoiselle Stangerson avait au moment où son père revint d'Amérique et acheta le Glandier 20 ans. Elle était plus jolie qu'on ne saurait l'imaginer, tenant à la fois toute la grâce parisienne de sa mère, morte en lui donnant le jour, et toute la splendeur, toute la richesse du jeune sang américain de son grand-père paternel, William Stangerson. Celui-ci, citoyen de Philadelphie, avait dû se faire naturaliser français pour obéir à des exigences de famille au moment de son mariage avec une Française, celle qui devait être la mère de l'illustre Stangerson. Ainsi s'explique la nationalité française du professeur Stangerson. 20 ans, admirablement blonde, des yeux bleus, un teint de l'air rayonnant d'une santé divine, Mathilde Stangerson était l'une des plus belles filles à marier de l'ancien et du nouveau continent. Il était du devoir de son père, malgré la douleur prévue d'une inévitable séparation, de songer à ce mariage, et il ne dut pas être fâché de voir arriver la dot. Quoi qu'il en soit, il ne s'en enterra pas moins avec son enfant au Glandier, dans le moment où ses amis s'attendaient à ce qu'il produisît Mademoiselle Mathilde dans le monde. Certains vinrent le voir et manifestèrent leur étonnement. Aux questions qui lui furent posées, le professeur répondit « Oh, c'est la volonté de ma fille. Je ne sais rien lui refuser. C'est elle qui a choisi le Glandier. » Interrogée à son tour, la jeune fille répliqua avec sérénité « Mais où aurions-nous mieux travaillé que dans cette solitude ?» Car Mademoiselle Mathilde Stangerson collaborait déjà à l'œuvre de son père, mais on ne pouvait imaginer alors que sa passion pour la science irait jusqu'à lui faire repousser tous les partis qui se présenteraient à elle pendant plus de 15 ans. Si retirés vivaient-ils, le père et la fille durent se montrer dans quelques réceptions officielles, et à certaines époques de l'année, dans 2 ou 3 salons amis où la gloire du professeur et la beauté de Mathilde firent sensation. L'extrême froideur de la jeune fille ne découragea pas tout d'abord les soupirants, mais au bout de quelques années, ils se lassèrent. Un seul persista avec une douce ténacité et mérita ce nom d'éternel fiancé, qu'il accepta avec mélancolie. C'était M. Robert Darzac. Maintenant, Mademoiselle Stangerson n'était plus jeune, et il semblait bien que, N'ayant point trouvé de raison pour se marier, jusqu'à l'âge de 35 ans, elle n'en découvrirait jamais. Un tel augurement apparaissait sans valeur, évidemment, à M. Robert Darzac, puisque celui-ci ne cessait point sa cour, si tant est qu'on peut appeler cour, les soins délicats et tendres dont on ne cesse d'entourer une femme de 35 ans, restée fille et qui a déclaré qu'elle ne se marierait point. Soudain, quelques semaines avant les événements qui nous occupent, un bruit auquel on n'attacha pas d'abord d'importance, tant on le trouvait incroyable, se répandit dans Paris. Mademoiselle Stangerson consentait enfin à couronner l'inextinguible femme de M. Robert Darzac. Il fallut que M. Robert Darzac lui-même ne démentît point ses propos matrimoniaux pour qu'on se dît enfin qu'il pouvait y avoir un peu de vérité dans une rumeur aussi invraisemblable. Enfin, M. Stangerson voulut bien annoncer, en sortant un jour de l'Académie des sciences, que le mariage de sa fille et de M. Robert Darzac serait célébré dans l'intimité au château du Glandier, sitôt que sa fille et lui auraient mis la dernière main au rapport qui allait résumer tous leurs travaux sur la dissociation de la matière, c'est-à-dire sur le retour de la matière à l'éther. Le nouveau ménage s'installerait au Glandier et le gendre apporterait sa collaboration à l'œuvre à laquelle le père et la fille avaient consacré leur vie. Le monde scientifique n'avait pas encore eu le temps de se remettre de cette nouvelle que l'on apprenait l'assassinat de Mademoiselle Stangerson dans les conditions fantastiques que nous avons énumérées et que notre visite au château va nous permettre de préciser davantage encore. Je n'ai point hésité à fournir au lecteur tous ces détails rétrospectifs que je connaissais par suite de mes rapports d'affaires avec M. Robert Darzac, pour qu'en franchissant le seuil de la chambre jaune, il fût aussi documenté que moi. Chapitre 5, où Joseph Rouletabille adresse à M. Robert Darzac une phrase qui produit son petit effet. Nous marchions depuis quelques minutes, Rouletabille et moi, le long d'un mur qui bordait la vaste propriété de M. Stangerson, et nous apercevions déjà la grille d'entrée, quand notre attention fut attirée par un personnage qui, à demi-courbé sur la terre, semblait tellement préoccupé qu'il ne nous vit pas venir. Tantôt il se penchait, se couchait presque sur le sol, tantôt il se redressait et considérait attentivement le mur. Tantôt, il regardait dans le creux de sa main, puis faisait de grands pas, puis se mettait à courir et regardait encore dans le creux de sa main droite. Rouletabille m'avait arrêté d'un geste. « Chut ! Frédéric Larsan qui travaille, ne le dérangeons pas !» Joseph Rouletabille avait une grande admiration pour le célèbre policier. Je n'avais jamais vu, moi, Frédéric Larsan, mais je le connaissais beaucoup de réputation. L'affaire des lingots d'or de l'hôtel de la Monnaie, qu'il débrouilla quand tout le monde jetait sa langue au chien, et l'arrestation des forceurs de coffre-fort du Crédit Universel, avaient rendu son nom presque populaire. Il passait alors à cette époque où Joseph Rouletabille n'avait pas encore donné l'épreuve admirable d'un talent unique, pour l'esprit le plus apte à démêler les chevaux embrouillés des plus mystérieux et des plus obscurs crimes. Sa réputation s'était étendue dans le monde entier, et souvent les polices de Londres ou de Berlin ou même d'Amérique l'appelaient à l'aide quand les inspecteurs et les détectives nationaux s'avouaient à bout d'imagination et de ressources. On ne s'étonnera donc point que, dès le début du mystère de la Chambre jaune, le chef de la sûreté, donné à songer à télégraphier à son précieux subordonné à Londres, où Frédéric Larsan avait été envoyé pour une grosse affaire de titres volés, « Revenez vite !» Frédéric, que l'on appelait à la sûreté le grand Fred, avait fait diligence, sachant sans doute par expérience que si on le dérangeait, c'est qu'on avait bien besoin de ses services. Et c'est ainsi que Rouletabille et moi, ce matin-là, nous le trouvions déjà à la besogne. Nous comprîmes bientôt en quoi elle consistait. Ce qu'il ne cessait de regarder dans le creux de sa main droite n'était autre chose que sa montre, et il paraissait fort occupé à compter des minutes. Puis il rebroussa chemin, reprit une fois encore sa course, ne l'arrêta qu'à la grille du parc, reconsulta sa montre, la mit dans sa poche, haussa les épaules d'un geste découragé, poussa la grille, pénétra dans le parc, referma la grille à clé, leva la tête, et à travers les barreaux, nous aperçut Rouletabille, courut alors et je le suivis. Frédéric Larsan nous attendait. « Monsieur Fred, dit Rouletabille en se découvrant et en montrant les marques d'un profond respect basé sur la réelle admiration que le jeune reporter avait pour le célèbre policier, pourriez-vous nous dire si Monsieur Robert Darzac est au château en ce moment ? Voici un de ses amis du barreau de Paris qui désirait lui parler. « Oh, je n'en sais rien, monsieur Rouletabille, répliqua Fred en serrant la main de son ami, car il avait eu l'occasion de le rencontrer plusieurs fois au cours de ses enquêtes les plus difficiles. Non, je ne l'ai pas vu. » Les concierges vous renseigneront sans doute, fit Rouletabille, en désignant une maisonnette de briques dont porte et fenêtre étaient closes et qui devait inévitablement abriter ses fidèles gardiens de la propriété. Mais non, les concierges ne vous renseigneront point, monsieur Rouletabille. Et pourquoi donc ? Parce que, depuis une heure, ils sont arrêtés.
Arrêtés ? S'écria Rouletabille. Ce sont eux les assassins ?
Frédéric Larsan haussa les épaules. Quand on ne peut pas, dit-il d'un air de suprême ironie, arrêter l'assassin, on peut toujours se payer le luxe de découvrir les complices. C'est vous qui les avez fait arrêter, monsieur Fred ?
Oh non, par exemple, je ne les ai pas fait arrêter, d'abord parce que je suis à peu près sûr qu'ils sont pour rien dans l'affaire, et puis
Parce que quoi ? Interrogea anxieusement Rouletabille.
Parce que... rien.
Fit Larsan en secouant la tête.
Parce qu'il n'y a pas de complice, souffla Rouletabille.
Frédéric Larsan s'arrêta net, regardant le reporter avec intérêt.
Ah ah, vous avez donc une idée sur l'affaire. Pourtant, vous n'avez rien vu, jeune homme, vous n'avez pas encore pénétré ici.
« Moi, j'y pénétrerai. J'en doute, la consigne est formelle.
Ben, j'y pénétrerai si vous me faites voir M. Robert Darzac.
Allez, faites cela pour moi. Vous savez que nous sommes de vieux amis. M. Fred, je vous en prie. Rappelez-vous le bel article que je vous ai fait à propos des lingots d'or. Un petit mot à M. Robert Darzac, s'il vous plaît. »
La figure de Rouletabille était vraiment comique à voir en ce moment. Elle reflétait un désir si irrésistible de franchir ce seuil au-delà duquel il se passait quelques prodigieux mystères. Elle suppliait avec une telle éloquence, non seulement de la bouche et des yeux, mais encore de tous les traits, que je ne pus m'empêcher d'éclater de rire. Frédéric Larsan, pas plus que moi, ne garda son sérieux. Cependant, derrière la grille, Frédéric Larsan remettait tranquillement la clé dans sa poche. Je l'examinais. C'était un homme qui pouvait avoir une cinquantaine d'années. Sa tête était belle, aux cheveux grisonnants, au teint mat, au profil dur. Le front était proéminent. Le menton et les joues étaient rasés avec soin. La lèvre sans moustache était finement dessinée. Les yeux, un peu petits et ronds, fixaient les gens bien en face d'un regard fouilleur qui étonnait et inquiétait. Il était de taille moyenne et bien prise. L'allure générale était élégante et sympathique. Rien du policier vulgaire. C'était un grand artiste en son genre, et il le savait, et l'on sentait qu'il avait une haute idée de lui-même. Le ton de sa conversation était d'un sceptique et d'un désabusé. Son étrange profession lui avait fait côtoyer tant de crimes et de vilainies qu'il eût été inexplicable qu'elle ne lui eût point un peu durci les sentiments, selon la curieuse expression de Rouletabille. Larsan tourna la tête au bruit d'une voiture qui arrivait derrière lui. Nous reconnûmes le cabriolet qui, en gare d'Épinay, avait emporté le juge d'instruction et son greffier. Ben, tenez, fit Frédéric Larsan, vous vouliez parler à M. Robert Darzac, le voilà. Le cabriolet était déjà à la grille et Robert Darzac priait Frédéric Larsan de lui ouvrir l'entrée du parc, lui disant qu'il était très pressé et qu'il n'avait que le temps d'arriver à Épinay pour prendre le prochain train pour Paris, quand il me reconnut. Pendant que Larsan ouvrait la grille, M. Darzac me demanda ce qui pouvait m'amener au Glandier dans un moment aussi tragique. Je remarquai alors qu'il était atrocement pâle et qu'une douleur infinie était peinte sur son visage. « Mademoiselle Stangerson va-t-elle mieux ?» demandai-je immédiatement. « Oui, fit-il, on la sauvera peut-être, il faut qu'on la sauve. » Il n'ajouta pas « où j'en mourrai », mais on sentait trembler la fin de la phrase au bout de ses lèvres exsangues. Rouletabille intervint alors. « Monsieur, vous êtes pressé, il faut cependant que je vous parle. J'ai quelque chose de la dernière importance à vous dire. » Frédéric Larsan interrompit. « Je peux vous laisser ?» demanda-t-il à Robert Darzac. « Vous avez une clé ou voulez-vous que je vous donne celle-ci ? » « Oui, merci, j'ai une clé, je fermerai la grille. » Larsan s'éloigna rapidement dans la direction du château, dont on apercevait à quelques centaines de mètres la masse imposante. Robert Darzac, le sourcil froncé, montrait déjà de l'impatience. Je présentai Rouletabille comme un excellent ami, mais dès qu'il sut que ce jeune homme était journaliste, M. Darzac me regarda d'un air de grand reproche, s'excusa sur la nécessité où il était d'atteindre Épinay en 20 minutes, salua et fouetta son cheval. Mais déjà Rouletabille avait saisi, à ma profonde stupéfaction, la bride, arrêté le petit équipage d'un poing vigoureux. Cependant qu'il prononçait cette phrase, dépourvue pour moi du moindre sens, le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. Ces mots ne furent pas plutôt sortis de la bouche de Rouletabille que je vis Robert Darzac chanceler. Si pâle qu'il fût, il pâlit encore. Ses yeux fixèrent le jeune homme avec épouvante, et il descendit immédiatement de sa voiture dans un désordre d'esprit inexprimable. « Allons, allons !» dit-il en balbutiant. Et puis, tout à coup, il reprit avec une sorte de fureur. « Allons, monsieur, allons !» Et il refit le chemin qui conduisait au château, sans plus dire un mot. Cependant que Rouletabille suivait, tenant toujours le cheval, j'adressai quelques paroles à M. Darzac, mais il ne me répondit pas. J'interrogeai de l'œil Rouletabille, qui ne me vit pas. Chapitre 6. Au bord de la Chênaie. Nous arrivâmes au château. Le vieux donjon se reliait à la partie du bâtiment entièrement refaite sous Louis XIV par un autre corps de bâtiment moderne, style Viollet-le-Duc, où se trouvait l'entrée principale. Je n'avais encore rien vu d'aussi original, ni peut-être d'aussi laid, ni surtout d'aussi étrange en architecture que cet assemblage bizarre de styles disparates. C'était monstrueux et captivant. En approchant, nous vîmes deux gendarmes qui se promenaient devant une petite porte ouvrant sur le rez-de-chaussée du donjon. Nous apprîmes bientôt que dans ce rez-de-chaussée, qui était autrefois une prison, et qui servait maintenant de chambre de débarras, on avait enfermé les concierges, M. et Mme Bernier. M. Robert Darzac nous fit entrer dans la partie moderne du château par une vaste porte que protégeait une marquise. Rouletabille, qui avait abandonné le cheval et le cabriolet aux soins d'un domestique, ne quittait pas des yeux M. Darzac. Je suivis son regard, et je m'aperçus que celui-ci était uniquement dirigé vers les mains gantées du professeur à la Sorbonne. Quand nous fûmes dans un petit salonnet garni de meubles vieillots, M. Darzac se tourna vers Rouletabille et assez brusquement lui demanda « Allez, parlez, que me voulez-vous ?» Le reporter répondit avec la même brusquerie « Vous serrez la main !» Darzac se recula. « Que signifie ?» Évidemment, il avait compris ce que je comprenais alors, que mon ami le soupçonnait de l'abominable attentat. La trace de la main ensanglantée sur les murs de la chambre jaune lui apparut. Je regardais cet homme à la physionomie si hautaine, au regard si droit d'ordinaire, et qui se troublait en ce moment si étrangement. Il tendit sa main droite et me désignant vous êtes l'ami de M. Sinclair, qui m'a rendu un service inespéré dans une juste cause, monsieur. Je ne vois pas pourquoi je vous refuserai la main. » Rouletabille ne prit pas cette main. Il dit, mentant avec une audace sans pareille, « Monsieur, j'ai vécu quelques années en Russie, d'où j'ai rapporté cet usage de ne jamais serrer la main à quiconque ne se dégante pas. » Je crus que le professeur en Sorbonne allait donner un libre cours à la fureur qui commençait à l'agiter, mais au contraire, d'un violent effort visible, il se calma, se déganta et présenta ses mains. Elles étaient nettes de toute cicatrice. « Êtes-vous satisfait ?»« Non, » répliqua Rouletabille. « Mon cher ami, » fit-il en se tournant vers moi, « je suis obligé de vous demander de nous laisser seuls un instant. » Je saluai et me retirai, stupéfait de ce que je venais de voir et d'entendre, et ne comprenant pas que M. Robert Darzac n'eût point déjà jeté à la porte mon impertinent, mon injurieux, mon stupide ami. Car à cette minute, j'en voulais à Rouletabille de ses soupçons qui avaient abouti à cette scène inouïe des gants. Je me promenais environ 20 minutes devant le château, essayant de relier entre eux les différents événements de cette matinée, et n'y parvenant pas. Quelle était l'idée de Rouletabille? Était-il possible que M. Robert Darzac lui apparût comme l'assassin? Comment penser que cet homme, qui devait se marier dans quelques jours avec Mlle Stangerson, s'était introduit dans la chambre jaune pour assassiner sa fiancée? Enfin, rien n'était venu m'apprendre comment l'assassin avait pu sortir de la chambre jaune. Et tant que ce mystère, qui me paraissait inexplicable, ne me serait pas expliqué, j'estimais, moi, qu'il était du devoir de tous de ne soupçonner personne. Enfin, que signifiait cette phrase insensée qui sonnait encore à mes oreilles? Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. Oh, j'avais hâte de me retrouver seul avec Rouletabille pour le lui demander. À ce moment, le jeune homme sortit du château avec M. Robert Darzac. Chose extraordinaire, je vis au premier coup d'œil qu'ils étaient les meilleurs amis du monde. « Nous allons à la chambre jaune, » me dit Rouletabille. « Venez avec nous !» « Dites donc, cher ami, vous savez que je vous garde toute la journée. Nous déjeunons ensemble dans le pays. »« Non, vous déjeunerez avec moi, ici, messieurs. »« Non, non, merci, » répliqua le jeune homme. « Nous déjeunerons à l'auberge du donjon. »« Vous y serez très mal, vous n'y trouverez rien, croyez-vous. »« Moi, j'espère y trouver quelque chose, » répliqua Rouletabille. « Après déjeuner, nous retravaillerons. Je ferai mon article. » Vous serez assez aimable pour me le porter à la rédaction. Mais vous, vous ne revenez pas avec moi?
Non, non, je couche ici.
Je me retournai vers Rouletabille. Il parlait sérieusement. Et M. Robert Darzac ne parut nullement étonné. Nous passions alors devant le donjon et nous entendîmes des gémissements. Rouletabille demanda « Mais pourquoi a-t-on arrêté ces gens-là »«
Ben, c'est un peu de ma faute, » dit M. Darzac.
« J'ai fait remarquer hier au juge d'instruction qu'il est inexplicable que les concierges aient eu le temps d'entendre les coups de revolver, de s'habiller, de parcourir l'espace assez grand qui sépare l'horloge du pavillon, tout cela en 2 minutes. Car il ne s'est pas écoulé plus de 2 minutes entre les coups de revolver et le moment où ils ont été rencontrés par le père Jacques.
Mais évidemment, c'est louche, acquiesça Rouletabille. Et ils étaient habillés.
Et voilà ce qui est incroyable, ils étaient habillés entièrement, solidement et chaudement. Il ne manquait aucune pièce à leur costume. La femme était en sabots, mais l'homme avait ses souliers lacés. Or, ils ont déclaré s'être couchés comme tous les soirs à 9 heures. En arrivant ce matin, le juge d'instruction, qui s'était muni à Paris d'un revolver de même calibre que celui du crime, car il ne veut pas toucher au revolver pièce à conviction, a fait tirer 2 coups de revolver par son greffier dans la chambre jaune, fenêtre et porte fermée. Nous étions avec lui dans la loge des concierges. Nous n'avons rien entendu. On ne peut rien entendre. Les concierges ont donc menti, cela ne fait point de doute. Ils étaient prêts, ils étaient déjà dehors, non loin du pavillon. Ils attendaient quelque chose. Certes, on ne les accuse point d'être les auteurs de l'attentat, mais leur complicité n'est pas improbable. M. de Marquet les a fait arrêter aussitôt. Mais s'ils avaient été complices, dit Rouletabille, ils seraient arrivés débraillés, ou plutôt, ils ne seraient pas arrivés du tout. Quand on se précipite dans les bras de la justice avec sur soi tant de preuves de complicité, c'est qu'on n'est pas complice. Je ne crois pas du tout aux complices dans cette affaire. Ben alors, pourquoi étaient-ils dehors à minuit, qu'ils le disent? Ben, ils ont certainement un intérêt à se taire. Il s'agit de savoir lequel. Même s'ils ne sont pas complices, cela peut avoir quelque importance. Tout est important de ce qui se passe dans une nuit pareille. Nous venions de traverser un vieux pont jeté sur la Douve et nous entrions dans cette partie du parc appelée la Chênaie. Il y avait là des chênes centenaires. L'automne avait déjà recroquevillé leurs feuilles jaunies et leurs hautes branches noires et serpentines semblaient d'affreuses chevelures, des nœuds de reptiles géants entremêlés comme le sculpteur antique en a tordu sur sa tête de méduse. Ce lieu, que Mlle Sanderson habitait l'été parce qu'elle le trouvait gai, nous apparut en cette saison triste et funèbre. Le sol était noir, tout fangeux des pluies récentes et de la bourbe des feuilles mortes. Les troncs des arbres étaient noirs, le ciel lui-même, au-dessus de nos têtes, était en deuil, charrié de gros nuages lourds. Et dans cette retraite sombre et désolée, nous aperçûmes les murs blancs du pavillon. Étrange bâtisse, sans une fenêtre visible du point où elle nous apparaissait. Seule une petite porte en marquait l'entrée. On eût dit un tombeau, un vaste mausolée au fond d'une forêt abandonnée. À mesure que nous approchions, nous en devinions la disposition. Ce bâtiment prenait toute la lumière dont il avait besoin au midi, c'est-à-dire de l'autre côté de la propriété et du côté de la campagne. La petite porte refermée sur le parc, M. et Mlle Stangerson devaient trouver là une prison idéale pour y vivre avec leurs travaux et leurs rêves. Je vais donner tout de suite, du reste, le plan de ce pavillon. Il n'avait qu'un rez-de-chaussée où l'on accédait par quelques marches, et un grenier assez élevé qui ne nous occupera en aucune façon. C'est donc le plan du rez-de-chaussée dans toute sa simplicité que je soumets au lecteur. Il a été tracé par Rouletabille lui-même et j'ai constaté qu'il n'y manquait pas une ligne, pas une indication susceptible d'aider à la solution du problème qui se posait alors devant la justice. Avec la légende et le plan, les lecteurs en seront tout autant pour arriver à la vérité qu'en savait Rouletabille quand il pénétra dans le pavillon pour la première fois et que chacun se demandait « Mais par où l'assassin a-t-il pu fuir de la chambre jaune ?» Suit ici un plan qu'un lien dans le billet permettra, je l'espère, de découvrir avec 6 pièces ainsi numérotées. 1. Chambre jaune avec son unique fenêtre grillée et son unique porte donnant sur le laboratoire. 2. Laboratoire avec ses deux grandes fenêtres grillées et ses portes, donnant l'une sur le vestibule, l'autre sur la chambre jaune. 3. Vestibule avec sa fenêtre non grillée et sa porte d'entrée donnant sur le parc. 4. Lavatory. 5. Escalier conduisant au grenier. 6. Vaste et unique cheminée du pavillon servant aux expériences de laboratoire. Reprise du texte. Avant de gravir les 3 marches de la porte du pavillon, Rouletabille nous arrêta et demanda à brûle-pourpoint à M. Darzac « Eh bien, et le mobile du crime ?»« Oh, pour moi, monsieur, il n'y a aucun doute à avoir à ce sujet, » fit le fiancé de Mlle Stangerson avec une grande tristesse. Les traces de doigts, les profondes écorchures sur la poitrine et au cou de Mlle Stangerson attestent que le misérable qui était là avait essayé un affreux attentat. Les médecins experts qui ont examiné hier ces traces affirment qu'elles ont été faites par la même main dont l'image ensanglantée est restée sur le mur. Une main énorme, monsieur, et qui ne tiendrait point dans mon gant, ajouta-t-il avec un amer et indéfinissable sourire. Cette main rouge, interrompis-je, ne pourrait donc pas être la trace des doigts ensanglantés de Mlle Stangerson, qui, au moment de s'abattre, aurait rencontré le mur et y aurait laissé, en glissant, une image élargie de sa main pleine de sang. Il n'y avait pas une goutte de sang aux mains de Mlle Stangerson quand on l'a relevée, répondit M. Darzac. « On est donc sûr maintenant, fis-je, que c'est bien Mlle Stangerson qui s'était armée du revolver du père Jacques, puisqu'elle a blessé la main de l'assassin. Elle redoutait donc quelque chose ou quelqu'un. C'est probable. Vous ne soupçonnez personne. » « Non, » répondit M. Darzac en regardant Rouletabille. Rouletabille alors me dit « Il faut que vous sachiez, mon ami, que l'instruction est un peu plus avancée que n'a voulu le confier ce petit cachotier de M. de Marquet. Non seulement l'instruction sait maintenant que le revolver fut l'arme dont se servit pour se défendre Mlle Stangerson, mais elle connaît, mais elle a connu tout de suite l'arme qui a servi à attaquer, à frapper Mlle Stangerson. C'est, m'a dit M. Darzac, un os de mouton. Et pourquoi M. de Marquet entoure-t-il cet os de mouton de tant de mystères ? Dans le dessein de faciliter les recherches des agents de la sûreté ? Sans doute. Il imagine peut-être qu'on va retrouver son propriétaire parmi ceux qui sont bien connus dans la basse pègre de Paris pour se servir de cet instrument de crime le plus terrible que la nature ait inventé. Et puis, est-ce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer dans une cervelle de juge d'instruction ? Ajouta Rouletabille avec une ironie méprisante. J'interrogeais. « Ah, on a donc trouvé un os de mouton dans la chambre jaune. »« Oui, monsieur, » fit Robert Darzac, « au pied du lit. »« Mais je vous en prie, n'en parlez point, monsieur de Marquet nous a demandé le secret. » Je fis un geste de protestation. C'est un énorme os de mouton dont la tête, ou pour mieux dire, dont l'articulation était encore toute rouge du sang de l'affreuse blessure qu'il avait faite à Mademoiselle Stangerson. Bon, c'est un vieil os de mouton qui a dû servir déjà à quelques crimes, suivant les apparences. Ainsi pense M. de Marquet, qui l'a fait porter à Paris au laboratoire municipal pour qu'il fût analysé. Il croit en effet avoir relevé sur cet os non seulement le sang frais de la dernière victime, mais encore des traces roussâtres qui ne seraient être autres que des taches de sang séchées, témoignages de crimes antérieurs. Un os de mouton dans la main d'un assassin exercé est une arme effroyable, dit Rouletabille, une arme plus utile et plus sûre qu'un lourd marteau. Le misérable, d'ailleurs prouvé, fit douloureusement M. Robert Darzac. L'os de mouton a terriblement frappé Mlle Stangerson au front. L'articulation de l'os de mouton s'adapte parfaitement à la blessure. Pour moi, cette blessure eût été mortelle si l'assassin avait été à demi arrêté dans le coup qu'il donnait par le revolver de Mlle Stangerson. Blessé à la main, il lâchait son os de mouton et s'enfuyait. Malheureusement, le coup de l'os de mouton était parti et était déjà arrivé, et Mademoiselle Stangerson était quasi assommée après avoir failli être étranglée. Si Mademoiselle Stangerson avait réussi à blesser l'homme de son premier coup de revolver, elle eût sans doute échappé à l'os de mouton. Elle a saisi certainement son revolver trop tard. Puis le premier coup dans la lutte a dévié et la balle s'est allée se loger dans le plafond. Ce n'est que le second coup qui a porté. Ayant ainsi parlé, M. Darzac frappa à la porte du pavillon. Vous avouerai-je mon impatience de pénétrer dans le lieu même du crime ? J'en tremblais. Et malgré tout l'immense intérêt que comportait l'histoire de l'os de mouton, je bouillais de voir que notre conversation se prolongeait et que la porte du pavillon ne s'ouvrait pas. Enfin, elle s'ouvrit. Un homme que je reconnus être le père Jacques était sur le seuil. Il me parut avoir la soixantaine bien sonnée, une longue barbe blanche, des cheveux blancs, sur lesquels il avait posé un béret basque, un complet de velours marron à côté usé, des sabots, l'air bougon, une figure assez rébarbative qui s'éclaira cependant dès qu'il eut aperçu M. Robert Darzac. « Des amis, » fit simplement notre guide. « Il n'y a personne au pavillon, père Jacques ?» Mais je ne dois laisser entrer personne, monsieur Robert, mais bien sûr, la consigne n'est pas pour vous. Et pourquoi ? Ils ont vu tout ce qu'il y avait à voir, ces messieurs de la justice. Ils en ont fait assez des dessins et des procès-verbaux. Pardon, monsieur Jacques, une question avant toute autre chose, fit Rouletabille. Ben dites, jeune homme, et si je puis répondre... Votre maîtresse portait-elle ce soir-là les cheveux en bandeaux ? Vous savez bien, les cheveux en bandeaux sur le front. Ah non, mon petit monsieur, ma maîtresse n'a jamais porté les cheveux en bandeaux, comme vous dites, ni ce soir-là, ni les autres jours. Elle avait, comme toujours, les cheveux relevés de façon à ce qu'on pouvait voir son beau front, pur, comme celui de l'enfant qui vient de naître. Rouletabille grogna et se mit aussitôt à inspecter la porte. Il se rendit compte de la fermeture automatique. Il constata que cette porte ne pouvait jamais rester ouverte et qu'il fallait une clé pour l'ouvrir. Puis nous entrâmes dans le vestibule, petite pièce assez claire, pavée de carreaux rouges. « Ah, voici la fenêtre, » dit Rouletabille, « par laquelle l'assassin s'est sauvé. » « Qu'ils disent, monsieur, qu'ils disent. Mais si c'est sauvé par là, nous l'aurions bien vu, pour sûr. Nous ne sommes pas aveugles. Ni M. Scargerson, ni moi, ni les concierges qui s'y ont mis en prison. Pourquoi qu'ils m'y mettent pas en prison, moi aussi, à cause de mon revolver ? Rouletabille avait déjà ouvert la fenêtre et examiné les volets. Ils étaient fermés à l'heure du crime. Au loquet de fer, en dedans, fit le père Jacques. Et moi, je suis bien sûr que l'assassin a passé au travers. Il y a des taches de sang. Oui, tenez, là, sur la pierre, en dehors. Mais du sang de quoi ? Ah, oui, fit Rouletabille, on voit les pas, là, sur le chemin. La terre était très détrempée. Nous examinerons cela tout à l'heure. Des bêtises, interrompit le père Jacques. L'assassin n'a pas passé par là. Eh bien, alors par où ? Ben, ce que je sais. Rouletabille voyait tout, flairait tout. Il se mit à genoux et passa rapidement en revue les carreaux maculés du vestibule. Le père Jacques continuait. « Oh, vous ne trouverez rien, mon petit monsieur. Ils n'ont rien trouvé. Et puis maintenant, c'est trop sale, il est entré trop le genre. Ils veulent point que je lave le carreau. Mais le jour du crime, j'avais lavé tout ça à grande eau, moi, père Jacques. Et si l'assassin avait passé par là avec ses ripatons, on l'aurait bien vu. » Il a assez laissé la trace de marque de ses godillots dans la chambre de mademoiselle. Rouletabille se releva et demanda « Quand avez-vous lavé ces dalles pour la dernière fois ?» Et il fixait le père Jacques d'un œil auquel rien n'échappe. « Dans la journée même du crime, je vous dis, vers les 5h30, pendant que mademoiselle et son père faisaient un tour de promenade avant de dîner ici même. » Car ils ont dîné dans le laboratoire. Le lendemain, quand le juge est venu, il a pu voir toutes les traces des pas par terre, comme qui dirait de l'encre sur du papier blanc. Mais ni dans le laboratoire, ni dans le vestibule, qui était propre comme un sou neuf, on a retrouvé ses pas à l'homme. Puisqu'on les retrouve près de la fenêtre, dehors, il faudrait donc qu'il ait troué le plafond de la chambre jaune, alors qu'il ait passé par le grenier, qu'il ait troué le toit et qu'il soit redescendu juste à la fenêtre du vestibule en se laissant tomber. Eh bien, il n'y a pas un trou au plafond de la chambre jaune, ni dans mon grenier, bien sûr. Alors vous voyez bien qu'on ne sait rien, mais rien de rien. Et qu'on ne saura, ma foi, jamais rien. C'est un mystère du diable. Rouletabille se rejeta soudain à genoux, presque en face de la porte d'un petit lavatory qui s'ouvrait au fond du vestibule. Il resta dans cette position au moins une minute. « Eh bien ?» lui demandai-je quand il se releva. « Bon, rien de bien important, une goutte de sang. » Le jeune homme se retourna vers le père Jacques. « Quand vous vous êtes mis à laver le laboratoire et le vestibule, la fenêtre du vestibule était ouverte ?»« Je venais de l'ouvrir parce que j'avais allumé du charbon de bois pour monsieur sur le fourneau du laboratoire. Et comme j'avais allumé avec des journaux, il y a eu de la fumée, j'ai ouvert les fenêtres du laboratoire et celles du vestibule pour faire courant d'air. » Puis j'ai refermé celle du laboratoire et laissé ouverte celle du vestibule. Et puis je suis sorti un instant pour aller chercher une lavette au château. Et c'est en rentrant, comme je vous ai dit, vers 5h30, que je me suis mis à laver les dalles. Après avoir lavé, je suis reparti, laissant toujours la fenêtre du vestibule ouverte. Enfin, pour la dernière fois, quand je suis rentré au pavillon, la fenêtre était fermée. Et monsieur et mademoiselle travaillaient déjà dans le laboratoire. Monsieur ou mademoiselle Stangerson avait sans doute fermé la porte en entrant. Oh, sans doute. Vous ne leur avez pas demandé ? Non. Après un coup d'œil assidu au petit lavatory et à la cage de l'escalier qui conduisait au grenier, Rouletabille, pour qui nous semblions ne plus exister, pénétra dans le laboratoire. C'est, je l'avoue avec une forte émotion, que je l'y suivis. Robert Darzac ne perdait pas un geste de mon ami. Quant à moi, mes yeux allèrent tout de suite à la porte de la chambre jaune. Elle était refermée, ou plutôt poussée, sur le laboratoire, car je constatai immédiatement qu'elle était à moitié défoncée et hors d'usage. Les efforts de ceux qui s'étaient rués sur elle, au moment du drame, l'avaient brisée. Mon jeune ami, qui menait sa besogne avec méthode, considérait, sans dire un mot, la pièce dans laquelle nous nous trouvions. Elle était vaste et bien éclairée. Deux grandes fenêtres, presque des baies, garnies de barreaux, prenaient jour sur l'immense campagne. Une trouée dans la forêt, une vue merveilleuse sur toute la vallée, sur la plaine, jusqu'à la grande ville qui devait apparaître là-bas, tout au bout les jours de soleil. Mais aujourd'hui, il n'y a que de la boue sur la terre, de la suie au ciel et du sang dans cette chambre. Tout un côté du laboratoire était occupé par une vaste cheminée, par des creusets, par des fours propres à toute expérience de chimie. Des corps nus, des instruments de physique un peu partout, des tables surchargées de fioles, de papiers, de dossiers, une machine électrique, des piles, un appareil, me dit M. Robert Darzac, employé par le professeur Stangerson pour démontrer la dissociation de la matière sous l'action de la lumière solaire, etc., etc. Et tout le long des murs, des armoires, armoires pleines ou armoires vitrines, laissant apercevoir des microscopes, des appareils photographiques spéciaux, une quantité incroyable de cristaux. Rouletabille avait déjà le nez fourré dans la cheminée. Du bout du doigt, il fouillait dans les creusets. Tout d'un coup, il se redressa, tenant un petit morceau de papier à moitié consumé. Il vint à nous, qui causions près d'une fenêtre, et il dit « Conservez-nous cela, monsieur Darzac. » Je me penchai sur le bout de papier roussi que M. Darzac venait de prendre des mains de Rouletabille. Et je lus distinctement ces seuls mots qui restaient lisibles. Presbytère, rien perdu, charme, ni le jarre de son éclat, et au-dessous, 23 octobre. Deux fois depuis ce matin, ces mêmes mots insensés venaient me frapper. Et pour la deuxième fois, je vis qu'ils produisaient sur le professeur Sorbonne le même effet foudroyant. Le premier soin de M. Darzac fut de regarder du côté du père Jacques. Mais celui-ci ne nous avait pas vus, occupé qu'il était à l'autre fenêtre. Alors le fiancé de Mademoiselle Stangerson ouvrit son portefeuille en tremblant, y serra le papier et soupira « Mon Dieu !» Pendant ce temps, Rouletabille était monté dans la cheminée, c'est-à-dire que, debout sur les briques d'un fourneau, il considérait attentivement cette cheminée qui allait se rétrécissant et qui, à 50 cm au-dessus de sa tête, se fermait entièrement par des plaques de fer scellées dans la brique, laissant passer trois tuyaux d'une quinzaine de centimètres de diamètre chacun. « Impossible de passer par là !» énonça le jeune homme en sautant dans le laboratoire. Du reste, s'il avait même tenté, toute cette ferraille serait par terre. Non, 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 ce n'est pas de ce côté qu'il faut chercher. Rouletabille examina ensuite les meubles et ouvrit des portes d'armoire. Puis ce fut le tour des fenêtres, qu'il déclara infranchissable et infranchi. À la seconde fenêtre, il trouva le père Jacques en contemplation. « Eh bien, père Jacques, qu'est-ce que vous regardez par là ?»« Ben, je regarde l'homme de la police qui cesse point de faire le tour de l'étang. Encore un malin qui en verra pas plus long que les autres. »« Vous ne connaissez pas Frédéric Larsan, père Jacques ?» dit Rouletabille en secouant la tête avec mélancolie. « Sans cela, vous ne parleriez pas comme ça. » S'il y en a un ici qui trouve l'assassin, ce sera lui, il faut croire. Et Rouletabille poussa un soupir. Ben, bon, qu'on le retrouve, faudrait savoir comment on l'a perdu, répliqua le père Jacques, têtu. Enfin, nous arrivâmes à la porte de la chambre jaune. Voilà la porte derrière laquelle il se passait quelque chose, fit Rouletabille, avec une solennité qui, en toute autre circonstance, eût été comique.